voix nue. Cette semaine, Alban Penaranda rencontre Ariane Ascaride. Ce soir, aujourd'hui et après. Ariane Ascaride, depuis le début de la semaine, vous nous recevez chez vous, en Seine-Saint-Denis, à Montreuil. Aujourd'hui, quand vous revenez à Marseille, quand vous descendez les escaliers de la gare Saint-Charles, que ressentez-vous ?
C'est assez étonnant parce que c'est une sensation que j'ai toutes les fois. Je rentre à la maison. Je ne peux pas vous dire autre chose que ça. Je rentre à la maison. L'air que je respire, je le connais bien. Les bruits que j'entends, je les connais bien. Ce sont les bruits de ma ville, de la ville de mon enfance. Et en plus, j'adore parce que quand je descends le boulevard d'Athènes, voilà, c'est tout de suite bigarré. C'est une population très mélangée. Et je suis à la maison, quoi. Quand je suis arrivée à Paris, la première année où je suis arrivée à Paris, j'étais jeune fille au pair dans le 7e arrondissement de Paris, et j'avais peur. Parce qu'il y avait que des blancs. En fait, j'avais aucun repère, je comprenais pas. C'est pas, vous voyez, je veux pas faire du mélo, ni de la caricature, mais je n'étais pas à l'aise. Et quand j'arrive, quand je descends, c'est un truc aussi, je suis apaisée. Cette ville qu'on dit tout le temps violente, turbulente, bruyante, eh ben moi ça m'apaise d'arriver là.
Vous reconnaissez dans le Marseille d'aujourd'hui la ville de votre enfance, de votre jeunesse ?
Oui, parce qu'il y a toujours des bouts qui restent. Vous savez, je suis comme Georges Perec, je vais me balader, et je cherche les endroits qui n'ont pas bougé, les endroits qui ont bougé. Oui, je pense que je peux encore descendre tranquillement la Canebière. Et savoir parce que tout est, c'est pas que la parole, c'est aussi une certaine manière de marcher, c'est une certaine manière de d'assumer son corps, hein, c'est ça cette ville-là. D'ailleurs, c'est toutes les villes du sud de la Méditerranée, c'est comme ça. Le corps, il est hyper important. Ici, dans le nord, le corps, on le cache. Marseille, l'été, les corps comme ça apparaissent, resplendissent. Et je crois que je sais encore. Déambuler à l'intérieur de ça. Après, c'est vrai que c'est une ville qui a changé, qui bouge. Mais Marseille, ça a toujours été une ville qui bouge. Ça, même les accents, l'accent que je peux avoir moi quand je parle dans ma langue natale, comme je dis, n'est pas le même que l'accent des jeunes gens aujourd'hui. Parce que l'accent des jeunes gens aujourd'hui, c'est un accent qui est, et ça c'est génial, parce qu'il faudrait quand même s'en rendre compte, c'est ça qui est formidable. C'est un accent qui est un mélange d'accents provençal, maghrébin, et tout ça s'est mélangé. Mais, et donc l'intégration, elle se fait. Moi je vois des jeunes gens qui sont pas du tout d'origine maghrébine, qui parlent avec une scansion, qui est une scansion où il y a de l'accent maghrébin. Donc ça veut dire que ça se fait l'intégration, ça se fait par le verbe. Alors qu'on me raconte pas d'histoire sur l'immigration. Non, c'est pas de l'immigration, c'est de l'intégration. Alors ça se fait plus ou moins facilement, je suis bien d'accord, mais elle se fait par la voix.
Quand dans la ville où on est né, où on a passé son enfance, sa jeunesse, des immeubles s'effondrent sur leurs habitants, par négligence, par mépris, que cela se passe à deux pas de là où on l'a vécu soi-même, comment réagissez-vous ? Que ressentez-vous, Ariane Ascaride, quand vous voyez Marseille s'effondrer ? Quand vous voyez l'état de grande misère de certains de ces quartiers, l'abandon de toute une part de sa population ?
Comment voulez-vous que je réagisse ? Voilà, ça fait plusieurs jours qu'on est là à parler. Comment voulez-vous que je réagisse ? Je suis en colère, je suis désespérée, et vraiment c'est vrai, je suis désespérée, parce que cette ville, c'est une ville géniale, et c'est une ville qu'on laisse pourrir, qu'on laisse pourrir le centre de cette ville, volontairement, pour effectivement aller jusqu'à faire mourir des gens, parce que est-ce que bien tous les gens qui sont responsables de ça se rendent compte qu'ils ont fait mourir des gens? Ah, bien sûr, ils leur ont pas tiré dessus. Ah, bien sûr, ils étaient pas là quand ça s'est passé. Mais ils sont morts, ces gens. Comment on dort? Comment on se regarde dans la glace le matin quand on se lave les dents? Quand on sait exactement ce qui s'est passé, quand on sait que ces immeubles qui sont des immeubles du 19e siècle, quand on a fait, ah oui, on a fait venir des experts, ah oui, les experts ont dit, ah bah oui, on peut continuer à habiter au 4e, mais on peut pas continuer à habiter au 1er. Mais enfin, et pourquoi tout ça? Parce que qu'est-ce qui va se passer une fois qu'on aura ramassé les gravats et les corps? On va reconstruire. Qui on va mettre dans les maisons qu'on aura reconstruites? Ça m'étonnerait qu'on remette la population bigarrée qui habitait. Qui cette population, justement, ne s'est jamais sentie légitime pour aller dire, mais vous vous rendez compte dans quoi vous nous faites vivre? Et ça, c'est au-dessus de mes forces. C'est du domaine de l'insupportable. Je ne comprends pas. ce mépris-là, je ne le comprends pas. Et on est toujours à la mairie ? On reste ? Mais pourquoi ? Comment on fait ? Je juge pas, je dis juste comment on fait pour rester. Qu'est-ce qu'on a dans la tête pour rester ? Alors qu'il y a des gens, il y a des travailleurs sociaux, il y a des tas de gens, et même des gens, même moi je connais une conseillère générale qui fait un travail extraordinaire pour les jeunes et tout ça, et qui va sur le terrain, qui est tout le temps sur le terrain pour aider les gens. Et enfin quoi ? Un homme est un homme, non ? Qu'est-ce qu'ils ont de moins que les autres ? Ils ont quoi ? Ils gagnent moins d'argent ? Ils parlent pas la même langue ? Mais ils ont deux bras, deux jambes, une tête, un cœur et un estomac. Vous voyez, je fais pas de politique. C'est au-delà de ça. Un homme et une femme sont les mêmes partout. Est-ce qu'on imagine ce qui va se passer dans la tête de ce petit garçon qui va attendre toute sa vie sa maman qui est pas venue le chercher à l'école? Est-ce qu'on imagine ce que ça fait dans la vie d'un enfant et qui va devenir un homme? Comment peut-on faire ça? Comment peut-on reléguer d'autres gens dans des quartiers, ce qu'on appelle les quartiers nord, où effectivement, il faut plus aller parce que c'est dangereux? Mais moi, je les connais, les quartiers nord. Effectivement, il y en a qui sont dangereux. Mais il y a aussi des tas de gens qui vivent là-dedans. Et ce sont des gens vachement bien. Et il y a des tas de mômes qui vont à l'école et qui sont bons à l'école. Et ils vivent dans des situations qui sont dans des jardins, ce qui au départ étaient des jardins de la cité qui sont devenus des dépotoirs. Comment on peut faire vivre les gens comme ça? Comment ces gens-là peuvent avoir un accès à la beauté? Que les architectes de la ville aillent vivre 15 jours là-dedans. Ils vont comprendre ce que ça veut dire la violence. Comment peut-on ne pas être violent quand on vit dans l'horreur, dans la laideur? Parce que vous savez, la beauté, faut la prendre, on vous la donne pas. Et à partir du moment où vous êtes en contact avec la beauté, les choses changent. Mais vraiment, ça change. Quand vous voyez, quand vous vous dites que, oh ben non, on vous a bien laissé croire que vous n'êtes pas capable de regarder un tableau. Mais pourquoi vous n'êtes pas capable de regarder un tableau? Qui a décidé que vous n'étiez pas capable de regarder un tableau? Qui a décidé que vous n'étiez pas capable d'entendre une musique? Et que ils sont vachement forts, ils ont une énergie et une vitalité incroyables, parce qu'ils en inventent de la musique, et ça s'appelle le rap, et que c'est génial, et que c'est de la poésie, et que ça parle du monde d'aujourd'hui. Et parce que quand même, il faut le dire, cette ville qui doit être normalement la seconde ville de France, elle est comme ça, dans cet état de désarroi, de destruction.
Et comment expliquer que ce soit comme ça ?
C'est politique, hein, c'est des choix, hein, il faut quand même dire les choses comme elles sont. C'est des choix, on décide, parce qu'effectivement le centre de Marseille, on décide, c'est la seule ville en France où le centre de Marseille est occupé par une population populaire, et qu'on a envie de s'en débarrasser, pour faire comme dans toutes les autres villes de France, faire un beau centre, un peu folklorique, un peu gentrifié, évidemment, mais... Et pourquoi les gens... Moi, si je revois que des gens qui me ressemblent dans le centre de Marseille, mais je vais crever. Ça me va pas. Vous voyez, je peux pas rencontrer que des intermittents du spectacle dans le centre de Marseille. J'ai besoin de rencontrer un gars qui travaille sur un chantier, ou une fille qui fait des ménages, ou même une fille qui est employée je ne sais où. Enfin, et des gens qui vont me parler d'autre chose que de mes préoccupations personnelles. Et même pour faire le métier que je fais, faut que quand même je rencontre des tas de gens, parce que sinon je vais pas savoir jouer. Et de toute façon, c'est quand même dingue, cette ville est devenue depuis une dizaine d'années une ville à la mode, hein. Tout le monde descend à Marseille. Pourquoi? Pour voir les Arabes? Pour voir ces pauvres qui sont dans le centre de Marseille? C'est pour ça que vous descendez? Je suis un peu violente, je reconnais, hein. Mais à un moment donné, si vous aimez tant Marseille que ça, faites avec les autres, avec ceux qui essayent de se débrouiller pour que Marseille continue à tenir. Allez les aider. Allez raconter des histoires. Il y en a, hein, il y a des gens qui le font, hein, bien entendu, hein. Mais ne venez pas le voir comme quelque chose de folklorique. Venez le voir comme une ville de France. Et tous ces gens-là sont des gens de France. Et même si certains n'ont pas leurs papiers, ben ils travaillent et ils font vivre ce pays de leur travail. Il faut arrêter. Et mais Marseille, ça a toujours été comme ça. La dernière vague d'immigration, c'était toujours pour tous les autres des voleurs, des menteurs, des feignants. Ça a toujours été comme ça. Les gens qui ont une certaine manière de penser avec laquelle je suis en désaccord le plus total, à Marseille, quand ils se présentent sur les listes électorales, il faudrait quand même pas qu'ils oublient que la plupart du temps, ils ont ou un nom espagnol, ou un nom italien, ou un nom grec, ou un nom arménien. Vous voyez, donc faut quand même remettre les choses à leur place. Et la mixité, c'est le futur du monde. Et c'est même la vitalité, c'est la vie, la mixité. On va quoi ? On va devenir complètement dégénérés en restant entre nous ?
Mais quand vous regardez Marseille aujourd'hui, les enfants de Marseille, est-ce que vous vous dites parfois, ces enfants, dans le monde tel qu'il est, n'auront pas forcément la chance que j'ai eue de pouvoir devenir quelqu'un d'autre que celle que j'étais destinée à être, Ariane Ascaride ?
Ça va être plus difficile, mais je sais qu'il y a toujours des enfants têtus. Et puis, ben, c'est pour ça qu'il faut continuer à parler, qu'il faut continuer à défendre certaines choses. Par exemple, dans la cimenterie dans laquelle nous avons tourné Marius et Jeannette, il y a tout un collectif qui s'est installé. Là, il y a des architectes et tout ça. Et ils font des spectacles, ils font des projections, ils font des tas de trucs. Et ben voilà, ben, c'est formidable. Ce sera plus difficile, ou peut-être pas, suivant ce qui se passe. Moi, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais j'ai seulement envie de dire, il n'y a pas de fatalité. On peut bouger, si on veut. Si on veut, il faut se battre, parce qu'il faut se battre, pour bouger. Mais on peut bouger. Le monde est ouvert à tout le monde. Ce qu'il y a, vous comprenez, c'est que la chose c'est cette chape de plomb qui est vraiment de plus en plus pesante, où on dit aux enfants, bah ouais, hein, voilà, c'est comme ça, bah non, ça va être difficile, ah non, tu vas pas pouvoir t'en sortir, non, tu restes là. Non, échappez-vous, passez à travers les mailles du filet, échappez-vous, parce que c'est vous le futur.
Comment rêvez-vous Marseille, Ariane Ascaride, Marseille qui serait tout ce qu'elle peut être ?
Marseille qui fait du bruit, Marseille qui crie, qui continue à crier, Marseille qui accepte les différences. Parce que au fond, quand vous êtes dans un quartier, en fait, dans le même immeuble, il y a des gens qui sont différents et ça va très bien. Ça marche très bien. C'est simplement après, quand ça devient public, que d'un coup on dit « ah, ceci, ah, cela ». Et d'ailleurs, ça marche dans les deux sens. Hein. C'est pas que les Blancs qui détestent les autres aussi, par moments, ils détestent les Blancs. Vous voyez, regardez, moi, quand mes parents se sont mariés, ce que je disais au début de tous ces entretiens, ma grand-mère française, elle était désespérée que ma mère épouse un Italien, et ma grand-mère italienne, elle était désespérée que son fils épouse une Française. Donc ça, si vous voulez, c'est quelque chose, on peut être, moi je trouve que ce serait une ville sur laquelle on pourrait faire presque des expériences, on pourrait travailler vraiment. Et d'ailleurs, il y a des expériences qui se font. La mixité marche très bien. Très bien, ça se pose pas de problème, quoi. Moi, quand j'étais en classe, qu'on faisait l'appel, il y avait toujours une pauvre fille qui s'appelait Dupuis, on faisait la pauvre. Parce que tout le monde avait des noms, ou des noms algériens, ou des noms arméniens, ou des noms italiens, ou des noms... Il y avait que des noms comme ça. Et ça se passait très bien. Mais là, depuis 30 ans, on monte les gens les uns contre les autres, et tout ça parce qu'il y a du chômage. Et ça ne dépend pas du tout des ethnies des gens. Ça dépend, excusez-moi, hein, je vais employer un mot, du grand capital. C'est tout. C'est pas plus compliqué.
Ariane Ascaride, vous dites volontiers que vous êtes une enfant de la République. Mmh. Que mettez-vous derrière ces mots, enfant de la République ?
Eh bien, c'est parce que si j'avais pas été à l'école de la République, je n'aurais pas fait d'études. Si l'école n'avait pas été gratuite, j'aurais pas pu faire d'études. Je suis allée au lycée de la République, je suis allée à l'université, où les droits d'étudiants étaient beaucoup moins chers à cette époque-là, à l'université de la République. Moi, c'est la République qui m'a permis de faire ce que je voulais faire. Voilà. Et aujourd'hui, il ne faudrait pas l'oublier, la République, la res publica, la chose publique. Voilà. Et il faut que tout le monde s'en préoccupe, parce qu'elle est à tout le monde, la République. Absolument tout le monde.
Être dans une famille de la première génération qui fait des études supérieures, qui migre vers d'autres territoires sociaux et culturels, Comment le vit-on avec l'extérieur, dans sa relation avec les mondes, les codes nouveaux que l'on découvre, mais aussi avec sa famille, avec son milieu d'origine?
Ouais, ben, moi, je suis plus riche que... Je suis plus riche. Je suis plus riche parce que j'ai deux cultures. Et j'aimerais en avoir trois, j'aimerais en avoir quatre. La diversité, c'est pas un handicap, c'est une richesse, une grande richesse. Oui, je sais parler avec quelqu'un dans la rue, sur le trottoir. Je sais toujours m'asseoir par terre sur le trottoir. Je suis une enfant qui a joué dans la rue. Et c'est des souvenirs absolument géniaux d'avoir joué dans la rue. Je souhaite à tous les enfants de jouer dans la rue. Et je sais aller à l'Élysée et parler avec le président de la République. Donc, si vous voulez, l'écart, il est pas mal, non? Et ça me donne une liberté, une immense liberté. Mais j'ai, et effectivement, parce que la France est une démocratie et que, bien sûr, nous avons beaucoup de problèmes, mais si on va dans beaucoup de pays, on va se rendre compte que la France peut être un pays génial. Encore faut-il qu'on s'en donne les moyens, hein, et qu'on veuille nous en donner les moyens. Ou alors, il faut qu'on les prenne, hein, les moyens. Enfin bon, il y a plein de solutions. Mais je suis très fière d'être française, parce que c'est un beau pays. Et dans ce pays, moi, là je parle de moi, eh ben j'ai pu comme ça, des fois avec souffrance, hein, c'était pas tout le temps facile, des fois avec vraiment du désespoir, mais n'empêche que j'ai eu la possibilité d'arriver où je suis. Je me suis retrouvée à l'Élysée, je l'avais pas demandé, c'était pas ça faisait pas partie de mes rêves et ça continue à pas faire partie de mes rêves d'ailleurs. Mais évidemment quand j'arrive dans ce palais-là, je pense immédiatement avec un petit sourire à celle qui jouait sur le trottoir. Et ça c'est génial parce que c'est une grande richesse, c'est formidable.
Quitter son milieu d'origine sans qu'il y ait la moindre trace de reniement, sans la moindre trahison, est-ce vraiment possible?
Oui, tout à fait. Tout à fait, c'est vraiment possible parce qu'il faut pas il faut jamais avoir honte de d'où on vient. Jamais. Faut jamais avoir honte de sa famille. On peut la détester mais pas en avoir honte. On peut la détester, être en conflit total mais pas avoir honte de ses racines, jamais, jamais, jamais. Parce que on est comme un arbre. C'est elles qui nous tiennent, et que vous le vouliez ou non, même si vous les cachez, même si vous les reniez, il y a toujours un jour où elles vous pètent au visage. Donc, au contraire, il faut les emporter avec soi.
Enfant de la République, donc, mais aussi enfant des livres, de la lecture, de la littérature, une passion d'enfance, vous nous l'avez dit en début de semaine, un territoire, un refuge de l'enfance, quelque chose qui ne vous a jamais quitté. La littérature, la poésie, les placez-vous au-dessus de toute autre forme d'expression?
Oui. Oui, parce que pour moi, c'est ce qui me permet et de réfléchir et de m'inventer des mondes, puisque j'entre dans les mondes de ces auteurs, je m'invente les personnages, je m'invente leur visage, leur corps, à partir de ce que je lis, je m'invente des paysages, et puis... c'est des histoires, enfin, c'est des morceaux de vie, et des fois des morceaux de vie qui me réconfortent, où je me dis, ah bon, elle aussi, d'accord. Alors c'est pas moi qui suis folle. Il y a des moments où je suis en communauté totale, quand je lis Annie Ernaux, c'est épatant, parce qu'il y a des trucs que je comprends vraiment, c'est presque comme si il y a des odeurs. Je peux presque sentir des auteurs. Et c'est vrai que la littérature, c'est ce qui m'a permis aussi, qui m'a protégée et qui m'a permis d'apprendre. Qui m'a permis d'apprendre des mots qui ne faisaient pas partie de mon vocabulaire familial. Je suis allée dans le dictionnaire voir ce que c'était que ces mots-là. C'est génial de découvrir des mots.
D'apprendre une langue, le français.
D'apprendre une langue, le français, bien sûr. Et parce que c'est ça aussi que j'ai juste envie de dire, c'est que souvent dans les familles populaires, en fait, on parle avec un vocabulaire qui peut être assez réduit. Mais ça veut pas dire qu'on peut pas apprendre un autre vocabulaire. Et quand on apprend un autre vocabulaire, il faut essayer d'expliquer aux autres qui commencent à se foutre de votre gueule parce que vous parlez mieux qu'eux et qui vous disent mais pour qui tu te prends, qu'eux aussi peuvent apprendre ces mots-là, que ces mots-là sont à tout le monde. Ce sont les mots de notre langue. Parce que vous savez, c'est ça aussi qui est très dur dans les milieux populaires, c'est que quand vous essayez de sortir un peu, les autres parce qu'ils sont tellement mal aussi, ils essayent de vous remettre en bas. Parce qu'ils sont mal. Et ce qu'il faut faire, il faut être encore plus fort que ça. Il faut juste leur tendre la main. Ah, ça marche pas tous les coups. Hein. Attention, hein. C'est pas la vie rêvée. Hein. Mais il faut essayer de leur tendre la main pour monter en même temps que vous sur l'échelle.
Vous avez fait paraître un livre d'entretien réalisé avec la romancière Véronique Olmy, Une force et une consolation. C'est le titre de ce livre. Quels sont les noms que l'on trouve tout en haut de votre panthéon des écrivains?
Flaubert, Anna Segers, Balzac. Oh là là, j'ai toujours du mal, c'est toujours compliqué ça. Joyce Carol Oates, Elsa Triolet. Il y en a tellement. Annie Ernaux, qui est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup. Véronique Olmy et Marie Desplechin, qui sont vraiment. Je suis tellement heureuse de connaître deux romancières, de connaître les femmes romancières, voilà. Et après, il y en a plein, mais là, vous voyez, vous me prenez toujours au dépourvu, j'ai pas ma liste à côté. Et bah, que les gens, si ça les intéresse, ils se reportent à ce livre et ils verront bien. Voilà.
La nostalgie et la révolte, vous dites que ce sont les sentiments que provoquent chez vous les livres qui accompagnent votre vie. Quels sont les livres, les auteurs qui éveillent en vous la nostalgie et la révolte, Ariane Ascaride?
En fait, la nostalgie, c'est je vais la chercher. Je vais essayer de la retrouver chez les auteurs. Parce que la nostalgie, c'est quelque chose qui en moi, quoi. Par exemple, mais c'est pas une nostalgie, vous voyez, c'est pas quelque chose où je suis, comment pourrait-on dire, assise dans mon fauteuil, un peu repliée sur moi-même. La nostalgie, c'est ce qui m'aide, c'est la mémoire. C'est me rappeler de choses formidables qui peuvent m'aider à reproduire d'une autre manière des choses formidables. Et Anna Segers, par exemple, c'est quelqu'un, elle est très peu connue en France. Et c'est un immense auteur allemand. C'est vraiment quelqu'un de formidable. Enfin, pas formidable. Elle a une écriture. Elle est complètement. Elle est une héritière de l'écriture romantique allemande. Et en même temps, elle a une force d'humanité, d'humanisme impressionnant. Et elle m'aide. Dans cette force de nostalgie, vraiment.
Vous aimez les lectures publiques. Mmh. J'aime cette transmission. Je suis comme un poste de radio, un instrument, dites-vous.
C'est vrai. Je suis juste là pour faire entendre. Hein. C'est tout. J'émets du son. C'est les mots qui sont écrits sur un papier se transforment en son que je permets d'entendre aux gens. Et c'est formidable les lectures. C'est formidable de faire des lectures publiques. C'est un truc qui me plaît parce que c'est très joli. Je regarde les gens et je vois bien les gens. Je vois dans leurs yeux qu'ils construisent aussi le décor. Parce que c'est ça que je leur dis souvent quand je fais des débats. Je dis, si je posais la question, la tête que vous donnez à ce héros-là ou à cette héroïne-là, chacun donne une tête différente. Donc ça provoque ça fait fonctionner l'imagination. Et ça, c'est très important.
Et c'est important pour vous aussi de transmettre le goût de la lecture, comme à vos filles, par exemple.
Mais, oui, il y avait comme ça une tradition. Tous les dimanches soirs, on donnait un livre différent. Elles le lisaient si ça leur plaisait, si ça leur plaisait pas, il n'y avait pas obligation. Elles ne le lisaient pas. Le dimanche d'après, on donnait un autre livre. Et c'est vrai que j'ai deux filles qui sont deux lectrices. Ma fille aînée, je crois qu'elle lit encore plus que moi. C'est démoniaque.
Ne vous dites pas, Ariane Ascaride, et les films de Robert Guédiguian, pour une bonne part, racontent d'ailleurs cela, que vous êtes de la dernière génération qui a encore un lien direct avec l'histoire des luttes sociales, avec celle des grands combats politiques de ce pays, et peut-être surtout avec la guerre, l'occupation, la résistance et la Shoah. La dernière génération qui a, de ce passé, une connaissance presque génétique, la dernière à avoir grandi aussi dans les décors de ce passé.
Oui, d'où notre responsabilité de transmettre. Oui, bien sûr, nous faisons partie de cette dernière génération, telle que vous la venez de la décrire très justement. Mais donc, on a la responsabilité de transmettre. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que il y a une nouvelle génération qui aussi est en train de se lever, effectivement, qui ne sait pas tout sur la guerre, sur la résistance, mais qui réfléchit, qui pense, des jeunes gens qu'on n'écoute pas, qu'on ne voit jamais à la télévision, mais qui vont dans des cités, qui font des choses, qui font, par exemple, sur les violences policières, il y a des tas de choses qui sont faites, il y a des tas de jeunes gens qui vont à des tribunaux, qui manifestent, qui soutiennent. Il y a quelque chose qui est en train de bouger. Alors, comme ils disent, c'est d'ailleurs très étonnant, parce qu'ils disent souvent, ouais, on sait que ça va pas marcher, mais il faut qu'on le fasse quand même. Et ça, c'est formidable. Et donc, nous, notre devoir, c'est de transmettre tel que nous sommes. Et même si, de temps en temps, ils doivent nous taper sur la tête avec un gourdin en nous disant qu'on n'est plus, qu'on comprend plus la réalité d'aujourd'hui. Mais c'est pas grave. Il faut y aller, quoi. Il faut aller au charbon.
Ariane Ascaride, pour terminer cette semaine d'entretien, vous avez choisi de nous lire quelques vers, quelques strophes de « Que la vie en vaut la peine » d'Aragon, issus du recueil « Les yeux et la mémoire ». Merci beaucoup de nous avoir accueillis chez vous toute cette semaine.
C'était un plaisir. C'est une chose étrange à la fin que le monde. Un jour, je m'en irai sans en avoir tout dit. Ces moments de bonheur, ces midis d'incendie, la nuit immense et noire aux déchirures blondes. Rien n'est si précieux peut-être qu'on le croit. D'autres viennent, ils ont le cœur que j'ai moi-même, ils savent toucher l'herbe et dire je vous aime, et rêver dans le soir où s'éteignent des voix. Il y aura toujours un couple frémissant pour qui ce matin-là sera l'aube première. Il y aura toujours l'eau, le vent, la lumière. Rien ne passe après tout si ce n'est le passant. Malgré la méchanceté des gens et les rires quand on trébuche et les monstrueuses raisons qu'on vous oppose pour vous faire une prison de ce qu'on aime, de ce qu'on croit un martyr, malgré l'âge et lorsque soudain le cœur nous flanche, l'entourage prêt à tout croire, à donner tort, indifférent à cette chose qui vous mord, simple histoire de prendre sur vous sa revanche. Cet enfer malgré tout, cauchemars et blessures, les séparations, les deuils, les camouflés et tout ce qu'on voulait. Pourtant, ce qu'on voulait de toute sa croyance imbécile à l'azur. Malgré tout, je vous dis que cette vie fut telle qu'à qui voudra m'entendre, à qui je parle ici, n'ayant plus sur la lèvre un seul mot que « Merci », je dirais malgré tout que cette vie fut belle.
Cette rencontre d'Alban Penaranda avec Ariane Ascaride. À voix nue, réalisation Rafik Zénine, prise de son Cyprien Creton, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.